L'actualité francophone sur France Inter en compagnie de nos amis suisses, canadiens, belges et africains. En Suisse, le procès d'un psychopathe qui avait tué sa sociothérapeute a connu son épilogue. Au Canada, on s'est intéressé de près au sommet de l'OTAN. En Belgique, la visite de Donald Trump à Bruxelles a fait réagir. Tout comme en France, où la poignée de main avec le président français n'est pas passée inaperçue. Enfin, au Congo, une polémique a lieu autour de la mort de deux experts de l'ONU. Au Canada, Benoît Audet, votre personnalité de la semaine est une actrice bien connue au Québec.
Oui, Nicole Leblanc, elle est décédée cette semaine à l'âge de 75 ans. Elle a joué des rôles marquants à la télévision dans des séries historiques. Tous les gens d'une certaine génération se souviennent de son personnage de Rosanna dans le téléroman Le Temps d'une paix. Nicole Leblanc a aussi joué de nombreux rôles au théâtre. Elle s'était fait plus discrète dans les dernières années de sa vie, mais les hommages qu'on lui a rendus ont démontré qu'elle était toujours présente dans l'imaginaire collectif.
En Belgique, Damien Roulette, c'est un médecin qui s'est illustré cette semaine.
Oui, il s'appelle Steven Loreis, il est neurologue, professeur à l'Université de Liège. Il s'est vu décerner à 49 ans la récompense scientifique belge la plus prestigieuse, le prix Franqui, et cela pour ses travaux innovants sur le coma. Ses recherches ont permis une meilleure connaissance des troubles de la conscience et des liaisons cérébrales. Il est parvenu à prouver que 40% des patients en coma végétatif continuent à ressentir des émotions et de la souffrance. Steven Loreis a identifié dans le cerveau deux réseaux de conscience, un externe sur le monde et un interne sur nous-mêmes. Ces découvertes rayonnent jusqu'aux États-Unis. Elles ont également influencé la réflexion sur les aspects éthiques et juridiques du débat sur l'euthanasie.
C'est le premier Africain à être élu directeur général de la puissante agence onusienne, l'Organisation mondiale de la santé. Mais l'Éthiopien Tedros Adhanom est loin d'être un novice, plusieurs fois ministre. Il entend bien tirer profit de son expérience pour lancer de grands chantiers, Guillaume Cordeau.
Oui, celui qui veut qu'on l'appelle professeur a déjà de sérieux états de service. Diplômé en infectiologie, l'ancien ministre de la Santé a également présidé le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, pour lequel il a levé des sommes records. Dans son pays, il a favorisé l'installation de services de proximité avec la construction de milliers de petites cliniques. Aujourd'hui, il lance à ses équipes « Remontons-nous les manches ». Il veut instaurer un système de couverture santé universelle, renforcer les procédures d'alerte sur les épidémies et diversifier les modes de financement de l'OMS. Soyons sûrs qu'avec son expérience dans le domaine de la diplomatie, il a aussi été ministre des Affaires étrangères, il y arrivera.
Et Tedros Adhanom prendra ses fonctions le 1er juillet prochain pour 5 ans. En Suisse, la personnalité de la semaine est la présidente de la Confédération, Virginie Mater.
Oui, dimanche passé, Doris Leuthard a remporté sa 8e victoire consécutive en votation populaire. Les Suisses ont en effet accepté de sortir du nucléaire d'ici 2050, une stratégie énergétique pensée, conçue et portée à bout de bras par l'actuelle présidente, qui est également ministre de l'énergie. À 54 ans, Doris Leuthard a fait de la pugnacité, de la maîtrise des dossiers et de son sourire des armes redoutables. Certains la surnomment la Roger Federer de la politique fédérale. Elle est sur le circuit depuis longtemps, c'est la plus ancienne membre du Conseil fédéral. Sur 16 scrutins, elle n'a perdu que 2 fois. Au fait de sa gloire, elle pourrait quitter le gouvernement avant la fin de son mandat.
D'Emmanuel Macron, il a dit « il est notre sauveur, il est exceptionnel ». Quand il s'agit de parler de sa propre personne, Jean-Louis Trintignant est moins dithyrambique, alors soyons-le pour lui. Jean-Louis Trintignant était au Festival de Cannes pour y présenter Happy End, le dernier film de Michael Haneke avec Isabelle Huppert et Mathieu Kassovitz. Le rôle qu'il interprète lui va comme un gant, celui d'un vieil homme, à la fois désabusé et amusé par la vie passée et l'idée de la mort à venir. Instantané d'une famille bourgeoise du Pas-de-Calais, dont le désir de mort est à mourir de rire, face à l'élan vital des migrants, force vive d'une région qui ne veut pas d'eux. L'acteur a aujourd'hui 85 ans. La dernière fois que Haneke a eu une palme d'or à Cannes, c'était pour son film Amour, dans lequel Trintignant est magnifique de finesse. Il avait dit qu'après ce film, il arrêterait le cinéma. Il n'a pas tenu parole, et c'est tant mieux. Polémique après l'annonce des autorités de République démocratique du Congo de la tenue prochaine d'un procès dans le meurtre de deux experts de l'ONU en mars dans le Kasaï, qui récoltaient des informations sur des fosses communes. De nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer une enquête menée dans la précipitation. Guillaume Cordeau.
Oui, le Conseil de sécurité de l'ONU s'interroge et envisage de nouvelles options afin de garantir une démarche sérieuse. Une équipe des Nations Unies doit déjà partir dans les jours qui viennent pour voir si toutes les procédures internes à l'organisation ont été respectées. En République démocratique du Congo, le mouvement citoyen, la Lucha, pousse pour qu'une enquête internationale soit lancée. Justin Muziwa, son porte-parole.
Alors qu'il y a d'autres éléments que la population ignore, nous avons besoin et la vérité pour que les acteurs de ces massacres, notamment les miliciens ou les gens de force de sécurité de la RDC, puissent être amenés devant la justice internationale.
Mais le principe de remettre en cause l'enquête locale a le don d'agacer le ministre congolais des Affaires étrangères, Léonard Tshéo-Kitundu, qui répond aux accusations.
Je peux vous assurer qu'il y a des tribunaux en République démocratique du Congo qui ont eu à juger des gens qui ont commis des crimes internationaux. Si certains membres du Conseil de sécurité ont des éléments à charge ou des informations, ils n'ont qu'à verser dans l'enquête menée par la justice congolaise afin qu'on établisse la vérité.
Aujourd'hui, aucune date n'a été fixée pour le procès des assassins présumés des deux experts, alors que d'autres enquêtes sont en cours, dirigées par la Suède et les États-Unis, pays d'origine des victimes.
Le sommet de l'OTAN a aussi retenu l'attention au Canada. C'est que le pays fait partie de ceux visés par les pressions du président Trump, qui veut que les membres de l'Alliance Atlantique assurent une plus grande part du fardeau lié aux missions militaires. Benoît Audet, c'est tout un casse-tête pour le premier ministre Justin Trudeau.
Oui, et c'est d'abord et avant tout un casse-tête budgétaire. L'OTAN demande à ses pays membres de consacrer 2% de leur produit intérieur brut aux dépenses militaires. Le Canada n'y arrive pas. Pour le moment, c'est à peine 1%. À titre de comparaison, la France est juste sous les 2% et la Belgique derrière le Canada sous la barre des 1%. Sur les 28 pays membres de l'OTAN, seulement 5 alliés ont atteint l'objectif des 2%.
Et pour le moment, le premier ministre Trudeau n'a rien promis.
On attend toujours la nouvelle politique de défense du Canada que le gouvernement doit présenter au cours des prochaines semaines. Et le premier ministre Justin Trudeau est très prudent là-dessus. On l'écoute.
Les décisions que nous allons prendre seront prises au Canada par les Canadiens.
De toute façon, il est impossible que le Canada arrive à court terme à doubler ses dépenses militaires. Il faudrait que le budget de la défense passe de 20 milliards à 40 milliards de dollars annuellement. Il faudra voir comment le gouvernement Trudeau arrivera à convaincre l'administration Trump qu'il peut contribuer autrement aux efforts de l'Alliance militaire atlantique.
En Belgique, Damien Roulette, c'est la visite éclair de Donald Trump, une trentaine d'heures, qui a marqué l'actualité.
Eh oui, vous connaissez l'adage, il n'y a que les sots qui ne changent pas d'avis. Et heureusement, serait-on tenté de dire, car en Belgique, personne ne l'a oublié. Avant son élection, Donald Trump avait décrit Bruxelles comme étant un trou à rat, un hellhole en version originale. Le président américain a peut-être changé d'avis, hein, en tout cas quelques heures après son arrivée. Il se fendait d'un tweet remerciant la famille royale pour son accueil chaleureux. Donald Trump a également rencontré le Premier ministre, Charles Michel. Il a insisté sur le multilatéralisme et le libre-échange face au protectionnisme américain. Il a rappelé que la Belgique était le 13e investisseur étranger aux États-Unis devant la Chine. Autre point sensible soulevé, l'attachement belge aux accords sur le climat, à la construction européenne et au partage équitable en matière de défense dans le cadre de l'OTAN. Malgré les divergences de vues, Trump a qualifié l'échange avec les autorités belges de cordial et sans tabou.
Et du côté de la population belge, Damien, comment s'est donc déroulé l'accueil du président américain ?
Alors là, pas sous les meilleurs auspices, entre 9 et 10 000 manifestants l'attendaient de pied ferme à Bruxelles, capitale placée sous haute surveillance policière et militaire. Une septantaine d'associations civiles, politiques, humanitaires se sont regroupées en comités baptisés Trump Not Welcome. Ces associations dénoncent les politiques discriminatoires, racistes et sexistes du président. Tout ce petit monde a défilé pacifiquement, un cortège bariolé de statues de la liberté et de bonnets de chars roses pour faire écho à la marche des femmes aux États-Unis. Parmi les slogans, celui-ci, Go Away, un message clair à l'adresse de Donald Trump, mais aussi de tous ceux qui lui déroulent le tapis rouge.
Le président de la République française, Emmanuel Macron, a lui aussi rencontré Donald Trump en marge du sommet de l'OTAN à Bruxelles.
Au total, ce fut pour moi un très bon entretien, pragmatique et chaleureux, et un entretien nécessaire parce que les États-Unis d'Amérique restent aujourd'hui un partenaire essentiel en matière de sécurité collective, de développement et de lutte contre le terrorisme. Et sur l'ensemble des théâtres d'opérations où nous intervenons, nous avons besoin de travailler ensemble de manière très étroite.
Entretien pragmatique donc, doublé d'une poignée de main, que le Washington Post a qualifié de féroce. Le geste a par ailleurs été disséqué sur les réseaux sociaux américains. Trump est connu pour ses poignées de main broyeuses, 19 secondes avec le premier ministre japonais. Il a probablement trouvé son maître avec Emmanuel Macron qui, mâchoire serrée, n'a rien lâché. Les doigts de Trump sont devenus tout blancs et il a fini par les retirer. Angela Merkel a dû penser qu'elle avait eu de la chance. En mars dernier, on s'en souvient, Donald Trump lui avait refusé sa main.
Virginie Mater, l'actualité de la semaine en Suisse, c'est l'épilogue du procès de Fabrice A.
Oui, le verdict est tombé mercredi. C'est la prison à vie pour Fabrice A, reconnu coupable d'assassinat, séquestration, contrainte sexuelle et vol. En 2013, cet homme qui purgeait une peine cumulée de 20 ans pour viol aggravé a égorgé sa sociothérapeute lors d'une sortie accompagnée. Dès le premier jour, une importante charge émotionnelle a pesé sur l'affaire. Et au-delà du drame humain, le crime a entraîné une véritable crise institutionnelle dans le canton de Genève. Un premier procès a été suspendu, puis annulé. Le second vient donc de s'achever. Et le principal enjeu de ce volet judiciaire a porté sur la notion d'internement à vie. L'internement à vie est une mesure qui a été proposée au peuple suisse via une initiative populaire et qui a été acceptée en 2004. Elle s'applique aux délinquants sexuels violents et exclut la libération anticipée. Mais pour cela, le coupable doit être jugé incurable. Or, les experts psychiatriques mandatés dans le procès de Fabrice A n'arrivent pas à cette conclusion. Le procureur genevois a tout de même requis l'internement à vie. La cour ne l'a pas suivi, préférant l'internement ordinaire. Écoutez la réaction de la mère de la victime à l'issue du verdict.
On aurait aimé la condamnation à vie et puis l'internement à vie parce que c'est une double sécurité. Alors, il n'aurait jamais pu sortir jusqu'à son dernier souffle et puis ça nous aurait rassurés. Maintenant, c'est déjà bien ce qu'on a obtenu. Et pour ça, c'est déjà très fort et puis certainement qu'il ne sortira jamais.
Et oui, il est très vraisemblable que Fabrice A ne sera jamais remis en liberté, ce qui va dans le sens des très nombreux détracteurs de l'internement à vie. Ils estiment en effet que l'arsenal juridique est suffisant pour éloigner à vie les criminels les plus violents.
C'était l'actualité francophone. Merci Virginie Mater, Guillaume Cordeau, Benoît Audet, Damien Roulette. À la semaine prochaine. Vous pouvez réécouter cette émission sur lesmediafrancophones.org.